lié à la relation avec Jésus-Christ à travers la communion. Jésus a dit, il prendra de nouveau avec nous dans le royaume des cieux. Ça nous demande aussi d'être serein afin que nous participions à ces vins nouveaux dans le royaume des cieux avec lui. Prions. Éternel notre Dieu, te disons merci. Tu viens de nous permettre et de nous accepter devant ta face à travers cette table. Bénis toute personne qui vient de participer à cette table, Seigneur, et que tu nous tiennes par ta main afin que nous marchions toujours conformément à ta volonté. Oui, tu vois aussi mon frère ou ma sœur qui hésite à participer à cause de ceci ou de cela. Seigneur, visite-les afin que le jour suivant, ils participent avec nous et qu'un jour, nous tous, nous participions à ces vins nouveaux que tu nous as promis avec toi. Maintenant, nous sommes, à ce moment, nous voulons écouter ta parole. Nous remettons ton serviteur entre tes saintes mains. Parle-nous à travers lui. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu nous bénisse.
Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer très, 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 très fort pour le roi de gloire? Est-ce que nous sommes heureux d'être dans la présence de celui qui a livré son corps pour nous sauver? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le roi de gloire? Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin, pour sa grâce et pour la vie qu'il nous donne. Je le bénis encore pour la faveur qu'il m'accorde ce matin de me tenir devant vous. C'est sa grâce et je lui dis merci pour ça. Et avant de commencer, je peux pas manquer à dire merci déjà au pasteur paroissial et à toute l'équipe qui travaille avec lui pour cette confiance renouvelée en notre personne. Amen. Est-ce que vous pouvez juste m'aider à apprécier le travail qu'ils font pour nous chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année pour tout ce qu'ils font? Et par le nom, je crois que je m'appelle Joe Ateni, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'aurais bien aimé saluer chacun de vous. Malheureusement, je n'ai que deux bras. Ça risque de me prendre tout mon temps, alors vous allez juste m'aider à saluer votre voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Vous allez juste lui dire, c'est de la part du frère Joe, c'est de la part du frère Joe, juste ça. Comme ça, on va gagner le temps. Amen. Merci beaucoup. Vous voyez qu'on a gagné beaucoup de temps. Ça a pris que 5 secondes, alors que si je le faisais moi-même, ça aurait pu me prendre 45 minutes. Que Dieu nous bénisse et merci pour cela. Alors ce matin, toujours dans ce grand thème, restaurer pour conquérir, on va partager sur un thème qui est intitulé « Nous sommes ambassadeurs de Christ ». Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous allons lire deux passages des Écritures avant d'aller plus loin. Le premier, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons commencer du 14e jusqu'au 21e verset. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14 à 21, la Bible dit ce qui suit. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons pas de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le deuxième passage, c'est dans 1 Chronique, chapitre 23, du 28 jusqu'au 32e verset. 1 Chronique, chapitre 23, le verset 28 à 32. La Bible déclare, chargé d'assister les descendants d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils étaient responsables des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des travaux liés au service de la maison de Dieu, des pains consacrés, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils devaient être présents chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel et offrir continuellement devant lui tous les holocaustes qui lui étaient destinés lors des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, suivant le nombre fixé par la règle. Ils veillaient sur la tente de la rencontre, sur les sanctuaires et sur les descendants d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Nous sommes ambassadeurs de Christ, où nous faisons office d'ambassadeurs de Christ. Alors avant de revenir à tout ce que la Bible nous dit, on va faire un petit documentaire pour nous aider à mieux comprendre ce que Paul nous dit en disant que nous sommes ambassadeurs pour Christ. C'est-à-dire, on va essayer de parler un peu, c'est qui un ambassadeur, bien sûr, selon que les droits nous disent ou juridiquement parlant, pour nous aider à comprendre, en fait, quelle est l'idée que Paul voulait enseigner ou voulait transmettre en disant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. Amen. Super. Alors, un ambassadeur dans l'Empire romain déjà, parce que c'est à cette époque-là que Paul est en train d'écrire, un ambassadeur, c'était des représentants officiels de Rome. C'était des représentants officiels de Rome envoyés dans d'autres États pour, premièrement, négocier des traités. Deuxièmement, pour discuter des affaires politiques. Troisièmement, pour collecter des renseignements. Et puis, finalement, pour promouvoir les intérêts de Rome. C'est-à-dire un ambassadeur, lui, il travaille pour le compte du gouvernement, mais pas au sein de sa nation. Amen. C'était quelqu'un que le gouvernement chargeait d'une mission, mais en dehors de sa propre nation. Lui, sa responsabilité, c'était d'aller vers une nation étrangère ou vers une nation avec qui l'Empire est en train de collaborer pour premièrement négocier en fait sur des traités. Vous savez, dans les relations internationales, ce sont des traités de foi qui jouent beaucoup plus. C'est des États qui font des traités entre eux, des nations qui négocient des traités afin de continuer à avoir des intérêts communs. Et c'est ça le rôle d'un ambassadeur. On l'a envoyé dans un autre État pour le compte de Rome. Et la première mission qu'il avait, c'était de finalement négocier les traités. Mais il ne s'est limité pas là. Il discutait aussi des questions politiques. Troisièmement, il collectait des renseignements et puis il était en train de promouvoir les intérêts de Rome. Son rôle à lui, c'était que les intérêts de Rome soient satisfaits. Il ne pouvait pas aller en dehors de sa nation pour ne pas satisfaire les intérêts de sa nation. Et on l'a dit, c'est un représentant officiel de Rome à l'époque, mais aujourd'hui, on dirait que c'est un représentant officiel de sa nation. Quand on envoie un ambassadeur dans un autre pays, c'est comme si c'était le gouvernement de ces pays-là qui s'est déplacé à l'étranger. De sorte que quand on voit l'ambassadeur, on voit sa nation ou l'État qui l'a envoyé. Quand on entend parler l'ambassadeur, c'est comme si c'était le gouvernement de cette nation-là qui parlait. On est ensemble jusque-là. Pourquoi je suis en train de dire tout ça? C'est juste pour nous faire comprendre le poids du travail que l'ambassadeur avait. S'il commettait une erreur là-bas, c'est tout son gouvernement qui payait tout ça. S'il essayait de faire une bêtise là-bas, c'est son gouvernement qui payait. Donc, il était là pour représenter sa nation. Il était là pour parler au nom et pour les comptes de sa nation. Et quand on l'envoyait comme ça, on l'a dit, il avait des obligations, mais il n'y avait pas que des obligations, il avait aussi des droits et en même temps un rôle à jouer. Quand on l'amenait, on avait dit, toi, ton obligation, voilà, c'est ça. Tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça. Mais en même temps, il jouissait de certains droits. Et l'un des droits principaux et qui fait qu'un diplomate ou un ambassadeur soit différent des autres, c'est l'immunité diplomatique. Ce qu'on appelle l'immunité diplomatique, c'est simplement le fait que le diplomate ou l'ambassadeur ne pouvait pas être poursuivi en justice pendant qu'il était en fonction dans le pays où on l'a envoyé. Même s'il arrivait qu'il a commis un crime, on ne peut pas le poursuivre en justice parce qu'il avait cette immunité-là. Bien sûr, il ne manque pas d'exception, mais d'abord, quand un ambassadeur arrive dans une nation, vous connaissez, nous sommes au Congo, vous savez toutes les tracasseries des fois qu'on a à l'aéroport quand on veut voyager. Mais un ambassadeur, dès qu'il arrive, même sa valise, on ne contrôle pas. Dès qu'il monte son passeport diplomatique, c'est fini. Il passe, toutes les portes lui sont ouvertes et c'est fini jusqu'à ce qu'il entrera dans l'avion. Il est protégé. Et quand il arrive à l'étranger, même s'il commettait un crime, on ne va pas le poursuivre en justice. Allô? C'est ça ce que le droit principal, l'avantage que l'ambassadeur a. Mais j'ai comme l'impression que cet avantage risque de devenir aussi un problème avec le temps. Je pense qu'on va, je vais revenir sur ça un peu plus tard. Et donc, quand Paul est en train de dire que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, c'est-à-dire qu'il nous a placés sur cette terre pour représenter son royaume. Autrement dit, normalement, quand le monde nous regarde, nous, ils doivent voir le royaume de Dieu en nous, au travers de nous. Quand nous, nous parlons au nom et pour le compte du royaume. Quand nous nous présentons quelque part, on se présente pour le nom et pour le compte du royaume. Et ce n'est pas ici qu'on vient le faire, non. C'est là dans le monde. Ici, j'aimerais dire, c'est comme si nous étions dans notre office de travail. Nous sommes dans notre ambassade du ciel. Mais pour qu'on travaille, ce n'est pas dans l'ambassade que nous travaillons, c'est en dehors de l'ambassade. Alors, ce n'est pas ici que tu dois nous montrer que tu es ambassadeur. C'est là-bas dans le monde. Parce que c'est le royaume dans lequel notre Père nous a envoyés. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, c'est que nous sommes des représentants officiels de Jésus ici sur terre. C'est que nous sommes là, bon, pour négocier des traités entre le ciel et la terre, si je peux l'exprimer ainsi pour nous faire comprendre. Alléluia. Amen, amen. Et comme les ambassadeurs étaient chargés d'une mission, nous aussi nous sommes chargés d'une mission. Dieu a commencé d'abord par nous réconcilier avec lui-même à travers de Christ et a fait de nous des ambassadeurs. Pourquoi? Parce que Christ ne devrait pas rester éternellement sur cette terre. Il était venu pour un temps limité et repartir. Alors, parce que sa mission devait continuer ou son travail devait continuer, il a enrôlé des ambassadeurs. Imaginez que tous les gouvernements congolais soient obligés de voyager à tout moment pour régler des problèmes. Comment nous allons rester dans notre nation? Les ministres, ils voyagent. Les premiers ministres, ils voyagent. Les gouverneurs des provinces, eux aussi, doivent aller à l'étranger à tout moment parce qu'ils doivent régler les relations internationales. Ça sera compliqué, on risque de rester ici avec personne. Alors, il faut que le gouvernement continue à travailler dans sa nation, mais en même temps, il a besoin de personnes chargées. Ainsi, Dieu doit continuer à rester sur son trône dans le ciel, mais en même temps, il doit envoyer des personnes qui vont continuer à faire son travail sur cette terre. Alléluia. Et vous et moi, nous sommes ces personnes chargées de continuer ce travail. Avant de parler de cette mission, des obligations ou des rôles que nous sommes appelés à jouer, je veux revenir un peu sur l'immunité diplomatique. Comme je l'ai dit, c'était une mesure de garde. Non seulement pour que... Le but, c'était d'aider cet ambassadeur à bien exercer sa fonction sans être dérangé. S'il a commis des crimes, on va régler ça plus tard. Il finit d'abord son travail et puis il y a des discussions. Alors, je l'ai bien expliqué, c'est qu'il y a aussi des exceptions. Dans le sens que pour poursuivre un ambassadeur, il faut d'abord parler à son État pour qu'on enlève cette immunité-là diplomatique, alors on peut le poursuivre. Tant que cette immunité-là n'est pas ôtée, on ne peut jamais le poursuivre. Donc ça demande aussi une très bonne négociation avec son État. Mais comme je l'ai dit, j'ai comme l'impression que l'immunité peut devenir aussi un problème si cet ambassadeur commence à jouer avec ça pour faire tout ce qu'il veut. Et des fois, j'ai comme l'impression, quand on dit qu'en Christ, nous sommes libres du péché, ça devient un problème pour nous, les chrétiens. La tentation avec l'immunité présidentielle, c'est que, je dis, ah, mais on ne peut pas m'arrêter, parce que je peux même commettre une fraude ici, on ne va pas m'arrêter. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien? De la même manière que les gouvernements nationaux savent donner cette immunité-là à ceux qu'il envoie. Dieu aussi nous donne certaines immunités quand il nous envoie. C'est ce que je parlais. Il nous a libérés du péché, afin qu'il n'y ait plus rien qui nous empêche de faire ce qu'il attend de nous. Mais quelquefois, cette liberté que nous avons en Christ devient un problème pour nous. Paul l'exprime très bien dans Galates chapitre 5. Le premier verset, il dit, c'est pour la liberté que vous avez été enfranchis. Il dit premièrement, ne vous mettez plus encore sous une forme de joug ou de servitude. Mes amis, frères et sœurs dans le Seigneur, chers parents, être libre en Christ ne veut pas dire être libre de faire ce qu'on veut. Quand Dieu nous a libérés, il ne nous a pas libérés de son autorité, il nous a libérés du pouvoir du péché. Ce qu'on oublie, c'est qu'à partir du moment où nous sommes libres, mais que nous commençons encore à obéir au péché, nous nous rendons nous-mêmes encore esclaves du péché. Vous voyez la tentation de la liberté, surtout quand elle est mal comprise. On s'est dit car je suis libre, non, donc je peux faire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que lorsque vous obéissez à quelqu'un, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Donc à partir du moment où tu te dis, vu que je suis libre, je fais ce que je veux, tu te remets encore esclave. Paul encore, il est dit au verset 13 du même chapitre 5 de Galates, il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre encore selon votre propre nature. Comment pourrons-nous représenter le royaume des cieux sans manifester les valeurs du royaume des cieux? Comment pourrons-nous représenter un royaume alors que les valeurs de ce royaume ne sont pas là? Le royaume des cieux, c'est un royaume d'amour. Comment pouvons-nous nous dire ambassadeurs de Christ vivant sans amour? Le royaume des cieux, c'est un royaume de grâce. Comment pourrons-nous vivre sans savoir accorder la grâce aux gens autour de nous? Il y a des gens, quand ils vous parlent, ils sont tellement durs dans leurs paroles que vous vous dites, j'aurais bien aimé ne pas l'écouter. Pourtant, la Bible nous dit que s'il y a lieu que sortent quelques paroles de vos bouches, ce soit des paroles assaisonnées de grâce. Notre royaume, c'est un royaume rempli de miséricorde. Ce qui me fait mal, ce n'est même pas que nous arrivons même pas à remplir notre fonction. Non, c'est qu'entre nous, les ambassadeurs, nous nous détruisons. On ne sait plus s'aimer. Nous sommes les premiers à dire que Dieu est un Dieu de grâce. Mais il suffit qu'on entende la chute d'un frère pour l'écraser davantage. On est les premiers à dire que le Seigneur restaure et relève. Mais il suffit d'entendre qu'un frère ou une sœur a fait ceci. Nous sommes les premiers à détruire encore davantage son état. En quoi sommes-nous ambassadeurs dans cet état-là? Le royaume des cieux, c'est un royaume où il n'y a point d'égoïsme. Que nous sommes devenus égoïstes. C'est un royaume où on nous dit que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, qu'il regarde aussi ceux des autres. Mais nous vivons dans un monde où c'est moi d'abord et les autres qui se débrouillent. Comment représenterons-nous ce royaume sans aucune valeur de ce royaume dans notre vie de chaque jour? Sommes-nous vraiment ambassadeurs de Christ aujourd'hui? Si aujourd'hui Dieu devait exposer nos vies, est-ce que nous verrons Christ au travers de votre vie? La Bible dit qu'il marchait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant toute maladie et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Quand tu vas de lieu en lieu, est-ce vraiment pour faire du bien aux gens? Il y a certains qui prennent des moments de visite, pas juste pour saluer, non, parce qu'ils doivent médire de quelqu'un, ils doivent se moquer de quelqu'un, alors ils se mettent ensemble, commencent à parler. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des représentants de Christ. Au-delà juste de parler de Jésus dans nos paroles, dans nos mots, nous devons le vivre chaque jour. Et le problème, c'est que si notre cœur n'est pas réparé par Dieu, notre bouche ne laissera pas moins. Parce que ce n'est que de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur a un problème, ta bouche ne fera pas autre chose que révéler ces problèmes-là. Alléluia. Nous sommes là pour représenter Christ. Ce matin, je suis venu m'adresser, non pas, je suis venu comme un ambassadeur pour encourager les autres ambassadeurs comme moi. Il est important pour nous dans ce monde-là de montrer Jésus. Ce monde est en train de mourir. La seule espérance de ce monde, c'est Jésus. On l'a même chanté, en Jésus. C'est quoi déjà? J'ai placé ma confiance. C'est lui seul qui est notre espérance de chaque jour. Et nous ne devons pas laisser ça pour nous-mêmes, non. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes des ambassadeurs du royaume le plus puissant qui puisse exister. Et le monde entier a besoin que ce royaume soit en relation avec lui. C'est pourquoi Paul dit, nous vous exhortons au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ce message que nous devons annoncer à ce monde. Mais avant d'annoncer ce message, on doit se rassurer que nous vivons nous-mêmes ce message. Soyons nous-mêmes réconciliés avec Dieu et réconciliés entre nous afin d'annoncer dans ce monde que nous représentons un royaume éternel, un royaume tout puissant, un royaume qui accorde de l'espoir à tous ceux qui l'ont perdu. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Mais comment allons-nous prêcher la réconciliation étant nous-mêmes d'abord entre nous non réconciliés? C'est malheureux de voir combien on peut être dans l'église chaque dimanche, mais on ne se parle jamais, celle, je ne lui parle pas. On vient à l'église, mais des cœurs remplis de haine et de rancune. On ne sait pas pardonner. Pourtant, notre royaume, peu importe le péché que tu as commis, la Bible dit qu'il nous pardonne. Et il veut que nous aussi nous pardonnions. Il dit, pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. C'est facile d'accepter, Seigneur, tu m'as pardonné. Qu'en est-il de toi? As-tu pardonné à ton prochain? Alléluia. Nous sommes des représentants. Notre mission, c'est de montrer Jésus, d'annoncer Jésus. Et c'est dans tout ce que nous faisons, d'abord par notre être, et avec tout ce que nous avons, et avec tout ce que nous devons faire. Dans nos travaux, dans notre famille, dans la société, dans les quartiers, il faut que l'on voie Jésus. C'est malheureux de voir des chrétiens quand nous sommes là. Il suffit de voir un serviteur de Dieu qui a commis un scandale ou a commis une erreur. C'est tout le monde qui va le critiquer. Je ne viens pas justifier les mal qu'aurait commis un serviteur de Dieu, non. Mais j'aimerais juste nous poser une question. Et si Dieu se mettait à exposer nos vies, est-ce que nous serons mieux que ces serviteurs de Dieu-là qui sont tombés? Quand nous nous mettons à critiquer ceux qui tombent, si Dieu se mettait à exposer la vie de chacun de nous, est-ce que réellement tu es sûr que toi, tu seras mieux? Ou alors peut-être tu as commis pire, mais seulement Dieu t'a préservé dans sa grâce. Alléluia. Nous avons le devoir de représenter notre Seigneur par notre être et par tout ce que nous avons. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous ne serons pas tous ici devant en train de prêcher, non. Mais dans tout notre secteur, dans tous nos secteurs d'activité, c'est là que l'on doit présenter Christ. Dans la manière dont nous traitons les gens avec qui nous travaillons. Si vous êtes chef, la manière dont vous traitez ceux qui travaillent pour vous. Même dans la famille, les serviteurs, les servantes qui travaillent à la maison. Comment nous les traitons? Comment nous prenons soin de ces gens-là? C'est dans ça que nous montrerons que nous sommes enfants de Dieu. Ici à l'église, c'est comme si nous revenons dans notre lieu des ressources. On a fait notre travail, on revient, on dit, bon, chef, qu'est-ce que tu dis encore? Qu'est-ce qui nous attend? Quelle est la prochaine étape? Quel est le prochain travail? Qu'est-ce que nous devons encore faire? Et quand nous finissons, on répare encore. Alléluia. Deuxième mission d'un ambassadeur, on l'a dit, c'est qu'il devait promouvoir ou alors protéger les intérêts de son État. Protéger les intérêts de son État. Protéger les intérêts de son État dans tout ce qu'il fait. Il doit se rassurer que l'intérêt de son royaume, de son État passe avant tout. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous rassurer que l'intérêt de Dieu passe avant tout. Avant nos propres intérêts, avant nos propres désirs, nous devons nous rassurer que Dieu d'abord et le reste après. Alléluia. Et le reste après. Et dans cette protection-là des intérêts, on doit se rassurer aussi quelquefois que notre ambassade continue à fonctionner normalement. Je l'ai dit, on ne sera pas tous ici devant en train de prêcher. Mais il y a des gens qui, jour et nuit, ne doivent penser qu'à ce qu'ils doivent faire ici. On ne sera pas jour et nuit en train de prendre soin du temple et tout. Mais il y a de ceux qui prennent de leur temps pour venir travailler ici en ces lieux. On ne les voit peut-être jamais. Mais ça ne tombe pas du ciel qu'on vienne chaque dimanche et tout est propre et tout est arrangé. Non. Il y a des gens qui le font. Et je sais que ça nous fait plaisir. Quand tu arrives à l'église, tu es bien assis, tu es bien installé. Tu es heureux, tu peux entendre la parole de Dieu confortablement. Alléluia. Tout est propre, parce que je sais que personne d'entre nous n'aime la saleté. Ça nous fait du bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous sommes heureux? Peut-être la plupart d'entre nous, personne n'est jamais venu faire ce travail, mais il y a quand même des frères et sœurs qui les font. Est-ce qu'on peut quand même acclamer pour eux? Là où ils sont, que Dieu les bénisse et que Dieu se souvienne d'eux. Et donc, il y a des gens qui, pendant que nous sommes à l'extérieur pour continuer à faire le travail, et ils viennent à l'intérieur pour faire aussi le travail, pour prendre soin, comme je l'ai dit, de notre ambassade. Amen. Pour que l'ambassade continue à fonctionner, il y a des gens et des choses qui sont mises en œuvre pour cela. Alléluia. Alléluia. Voilà, là, je me rassure que nous sommes ensemble. Alors, ce qui fait que, quand ils font ce travail, ils ne le font pas avec des pensées, ils ne sont pas des télépathes pour dire, allez, chaise, mets-toi là, et puis ça c'est maintenant. Ils ne sont pas des télépathes pour dire, bon, saleté disparaît, non. Ils prennent des balais, ils prennent des seaux, ils prennent tous les matériels possibles pour arranger. Amen. Ils prennent tout ce qui est nécessaire pour que tout soit propre, pour que nous soyons confortables. Mais seulement ces matériels-là ne tombent pas du ciel. Ce n'est pas Dieu qui accomplit les miracles comme Jésus a multiplié les pains et puis, ou comme il a fait au début, que la lumière soit dit, que les balais soient, non. Ils prennent ce qu'il faut, ils partent au marché, ils achètent et ils viennent travailler. Alors, lorsque nous finissons notre travail à l'extérieur, on a besoin aussi, lorsque nous revenons dans notre lieu, dans notre ambassade, notre site, de trouver que tout marche correctement. Et pour que tout marche correctement, nous sommes dans un système où tu dois être fort financièrement. Si tu n'es pas fort financièrement, tu vas pleurer. Et s'il faut que l'Église se fasse respecter aux yeux du monde, il a besoin, quand tu viens, tu te dis, ok, je n'ai rien à envier aux autres. Amen, amen. C'est pourquoi chaque année, l'Église met en place un budget. Il estime ce qu'ils recevront et les dépenses qui seront mises en place, mises en œuvre pour que tout marche correctement. Pour les amoureux de la musique, nous aimons quand nous venons, la musique soit bonne. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'arrive à un endroit et que la musique n'est pas bonne, j'ai même du mal à prier. Donc, quand je commence à prier, que je sens que la musique n'est pas bonne, c'est fini, ça me déconcentre complètement. Et pour que la musique soit bonne, ça demande des instruments, des baffles et tout ça, et de bonnes qualités pour que ça soit bon. Pour que le son nous soit transmis très bien. Je n'ai même pas besoin de crier, mais ma voix s'est fait entendre jusque là-bas. On a besoin de choses de bonne qualité. Alléluia. Et ce n'est pas les gens de l'extérieur qui viendront apporter ça. C'est nous qui devons prendre soin de ce que Dieu nous a donné. C'est nous qui devons prendre soin de notre ambassade. Ça serait malheureux que tu ailles dans un pays étranger, que c'est le pays étranger qui doit arranger ton ambassade. Imaginez que tu es un ambassadeur. Malheureusement, au Congo, c'est compliqué. Toutes les fois qu'il faut faire des réparations dans notre pays, les financements doivent venir de l'extérieur. Est-ce que ça nous fait plaisir d'abord? Alors, imaginez que toutes les fois où on doit faire des réparations dans notre église, ça doit venir de l'extérieur. Vous ne savez pas que c'est un peu bizarre, non? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Merci. Alors, ce matin, comme le passage dans 1 Chronique, on l'a lu. Il y a des gens qui sont appelés à faire un certain travail dans les temples. À l'époque, c'était les temples. Il y avait des Lévites. Et Dieu leur avait dit que vous n'aurez pas de part en Israël, c'est l'Éternel qui sera votre part. Et leur responsabilité, c'était de travailler jour et nuit dans les temples pour prendre soin de tous les ustensiles, pour faire des cérémonies d'offrande et tout comme ça. Grâce à Dieu, aujourd'hui, à toutes ces cérémonies-là, on ne les fait pas parce que Jésus nous a libérés. À amener la grâce. Et il y avait des gens, et toute leur vie c'était ça. Ils ne pouvaient pas avoir le temps de sortir du temple et aller se chercher la nourriture. C'est l'offrande qui venait lorsqu'ils sacrifiaient pour l'Éternel. Les restes, c'est eux qui mangeaient ça. Donc c'est le peuple qui nourrissait les Lévites. Parce que eux, leur travail, c'était de se rassurer que lorsque le peuple vient au temple, qu'il donne à l'Éternel l'offrande comme il se doit. Et le peuple avait le devoir de prendre soin de ces gens-là. Parce qu'ils étaient à tout moment occupés aux soins du temple, au travail, louer l'Éternel, célébrer l'Éternel. Comme on l'a lu, je ne vais pas revenir sur le passage, vous pouvez aller le lire encore, 1 Chronique chapitre 23. Ils devaient se charger de tout ça jour et nuit. Et leur survie à eux, c'était le peuple qui s'en chargeait. Aujourd'hui, c'est un peu différent, pour certains bien sûr. Mais l'idée reste quand même là. C'est qu'il y a de ceux qui jour et nuit, leur rôle, leur travail, Dieu leur a demandé de prendre soin de son temple, de prendre soin de son peuple. Et il y a de ceux que Dieu a dit, vous le peuple, vous prendrez soin de ces gens-là qui prennent soin de vous. Aujourd'hui même, on a le temple, il fallait prendre soin du temple. Et aujourd'hui aussi, on continue à prendre soin du temple pour que ça soit propre, bien arrangé et tout comme ça. Et l'Église a mis en place un budget avec tout le monde. Et cet argent, il n'y aura pas un miracle man pour que l'argent vienne du ciel et puis ça arrive. Non, cet argent, c'est vous et moi qui allons contribuer pour atteindre ce budget et pour accomplir tout ce qui doit être accompli. Nous l'avons dit, nous sommes une église en bonne santé pour... Et on est ensemble. Nous sommes une église en bonne santé pour... Merci. Alors, assurons-nous que l'église reste en bonne santé pour que la société soit toujours transformée. Si l'église est en mauvaise santé, la société en paiera le prix. Alléluia. Alors pendant que tu prendras les stylos, le papier, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, cependant avec joie. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce qu'on peut courber nos têtes dans la prière? Ambassadeur de Dieu, ce matin, quelle est la résolution que tu prends devant ton maître, devant celui qui t'a envoyé? Ambassadeur de Dieu, y a-t-il peut-être des choses que tu dois régler avec ton Seigneur avant de continuer le travail? Alors juste pendant quelques secondes, parle juste au Seigneur. Peut-être tu as besoin de dire, Seigneur, pardonne-moi parce qu'à un moment donné, j'ai perdu de vue la mission. J'ai commencé à faire que ce qui me passait par la tête. Peut-être tu veux prendre de nouvelles résolutions pour dire, Seigneur, cette année, je veux faire encore plus que ce que j'ai fait l'année passée. Est-ce qu'on peut juste élever nos voix et parler à Dieu? Est-ce que des voix peuvent s'élever devant le Seigneur? Seigneur, c'est devant toi que nous approchons, Seigneur. Toi qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Toi qui nous as enrichis dans ta grâce éternelle. Apprends-nous, ô Dieu, à t'honorer, à te servir avec ce que nous sommes, avec ce que tu nous as accordé dans ta grâce et dans ta faveur. Seigneur, ce matin, tu sais ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Mais je prie, Seigneur, que toi seul, tu sois en train de parler à chacun de nous. Que toi seul, tu sois en train de conduire chacun de nous. S'il te plaît, fais-le dans ta grâce. Fais-le dans ta grâce. Jésus, fais-le dans ta grâce. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la force qui te plaît. Fais toute chose en ton temps. Je serai toujours confiant, je serai toujours. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la force qui te plaît. Fais toute chose en ton temps. Fais toute chose en ton temps. Je serai. Seigneur, observe mes voix. Seigneur, observe mes voix. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours. Ici-bas. Encore une fois, Seigneur.
Seigneur, observe mes voies.
Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais
habiter chez toi
tous les jours.
Ici-bas.
Alors tous ensemble, que ma vie
soit une fleur.
Un parfum
pour toi, Seigneur.
Que ma vie
soit
une fleur.
Un parfum des bons.
Encore une fois, que ma vie
soit une fleur.
Un parfum
pour toi, Seigneur.
Que ma vie
soit une fleur,
un parfum des bonnes odeurs. C'est pourquoi devant toi
je me répands.
Jésus,
fais-moi ce que tu voudras.
Devant toi
je me répands.
Seigneur, telle est notre prière ce matin. Tel est le vœu de nos cœurs ce matin. Alors fais-nous grâce de l'être pour toi chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Merci frère Joe pour la parole.